Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, émission de cinéma hebdomadaire avec forcément eh bien, des films et puis aujourd'hui un jeu, un blind test autour de David Bowie qui nous a quittés. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
De quoi tu veux nous parler ?
De The Beast, sorti il y a déjà 15 jours, un thriller belge un peu glauque. Et puis j'évoquerai donc dans un cycle consacré au cinéma fantastique français, Les yeux sans visage, chef-d'œuvre de Georges Franju.
Et puis, bien, moi, je vous parlerai eh bien, de Carole, film de Todd Haynes qui sort le 13 janvier. Et Marine eh bien, nous parlera aussi d'un autre film qui est sorti le 13 janvier, mais beaucoup moins intéressant. Ce sont eh bien, Les randonneurs amateurs, film avec Robert Redford et Nick Nolte.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Flic intègre mais borderline, Nick Kaffmeyer est tenté par un passé particulièrement traumatisant. La disparition jamais élucidée de son jeune frère. À l'époque, le suspect numéro 1 avait fini par être relâché par la police, faute de preuves. Depuis, Nick vient d'en faire de cauchemar en cauchemar, ressassant les dernières images de son frangin, enlevé par ce qui semblait être un de ses voisins. Alors étrangement, lui confie une affaire similaire, impliquant très vite des actes pédophiles. Nick s'enfonce alors corps et âme dans une enquête tortueuse et de plus en plus crapoteuse au fur et à mesure que le récit progresse. Alors, le point de départ n'augure rien de très original et évoque l'univers pesant de ces polars nordiques à la mode, édités souvent d'ailleurs chez Actes Sud, à l'instar du fameux ou fumeux Millennium. Alors, mais la référence la plus prégnante, le modèle presque archétypal, reste bien sûr Seven. L'ombre du film de Fincher plane sur ce thriller malsain et sombre. Alors rien ne manque à l'appel, hein, la pluie incessante, les couleurs grisâtres et jaunâtres, les comédiens qui font tous la tronche, la description sordide des meurtres perpétués, notamment tout ce qui est attrait à la morgue, ben, ça devient presque, on peut deviner quasiment tout à l'avance. Hein. Alors tout l'attirail du parfait polar psychologique est en place, sauf que les scénaristes n'apportent absolument rien de neuf. The Beast se vautre dans une sorte de best-of du film de serial killer. Alors Hans Herbert n'est pas sans talent, la mise en scène à défaut d'originalité parvient à captiver parfois le spectateur pendant la première partie qui est assez passionnante. Alors d'amples mouvements de caméra à la Steadicam et des plans très sophistiqués et oppressants soulignent quand même le soin apporté à une réalisation très léchée, voire un peu trop compte tenu du sujet abordé. L'intrigue fonctionne assez bien comme une bonne série télé, puis en glissant vers une ambiance de plus en plus dérangeante, hein, image complaisante à l'appui, le cinéaste cède alors à toutes les facilités du film crapoteux et bêtement subversif. La pédophilie est déjà un thème délicat et l'insistance avec laquelle il se focalise sur certains détails finit par révulser. Alors cette adaptation d'un roman de Mo Hyder, Le Traitement, c'est le titre original en fait, qui est quand même plus significatif que The Beast finalement. Alors il finit même par filer la nausée en fait, à l'image d'une résolution finale aussi retors que grotesque. Alors la vision du pédophile moyen par les auteurs est assez abjecte par son simplisme effarant. Mais bon, j'en dirai pas plus parce que pour les spectateurs qui vont le voir, il y a quand même quelques petites surprises.
Alors au fond, intrigue, oui.
Voilà, on va dire thriller efficace mais assez nauséabond sur le fond.
Voilà, donc autant revoir Seven, c'est ça, hein,
voilà, gros, autant voilà. Revoir Seven.
On va passer à tout autre chose, ce sont les randonneurs amateurs.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on écoute Marine.
Bill Bryson est un célèbre écrivain déjà arrivé à l'âge de la retraite, mais qui refuse de s'y résoudre. Pourtant, sa femme, Anna Thompson, est attentionnée, sa famille très heureuse, et il pourrait couler des jours heureux à leur côté, mais rien n'y fait. L'envie de la nouveauté et de l'évasion est trop forte. Il se lance donc un nouveau défi, parcourir les 3500 km de l'Appalachian Trail, un sentier de randonnée sauvage qui relie la Géorgie au Maine. Le seul problème étant qu'aucun de ses vieux amis ne souhaite l'accompagner, hormis un certain Stephen Katz, joué par Nick Nolte, avec qui il a autrefois fait les 400 coups. Porté sur la bouteille, les filles et pas sportif pour un sou, Katz s'avère vite être un binôme un peu encombrant.
Salut Stephen.
Bryson.
Ah. Hey. Content de te voir. Je te présente ma femme.
Vous êtes l'infirmière anglaise, il n'arrêtait pas de parler de vous.
C'est ce que j'espérais.
Il est ravi de vous rencontrer. C'est la collate d'un gros ours.
Est-ce que tu boites ?
Oui, j'ai un genou en titane et l'autre pas très... Oui, pas très stable, en gros. Oh. Oh, laissez-moi aller chercher un truc. Un truc à manger. Non. Ça permet de... Il faut que je mange toutes les heures, sinon... Sinon j'ai des sortes de...
Quoi, des malaises?
Non, non, c'est des...
Des crises?
Des crises, oui, c'est ça.
Tu as des crises?
Mais... Un jour, il y a 10 ans, j'ai bouffé la phényléthylamine contaminée. Il y a 10 ans, pourtant. Et ça m'a totalement niqué le système nerveux.
Tu avais dit que t'étais en forme.
Et je le suis.
Randonneur amateur s'apparente très clairement à une version senior de Wild, le très bon film de Jean-Marc Vallée, dans lequel Reese Witherspoon entreprend à pied et seul un périple afin de faire le point sur sa vie dévastée. Seulement, Wild avait davantage d'enjeux et surtout, il bénéficiait d'une mise en scène élégante. Ici confié à Ken Kwapi, ce réalisateur de seconde zone n'ayant pratiquement officié qu'à la télé, la mise en scène en est réduite à sa plus simple expression. On dira merci au drone à qui l'on doit les seuls plans intéressant du film. Alors les paysages sont sublimés et c'est tout du moins une belle ode à la nature, au point que j'en ai presque dommage que sa contemplation soit troublée par les éructations des deux randonneurs. Car excepté quelques jolies digressions sur la vieillesse récitées par un Robert Redford pas mauvais du tout, on a un peu l'impression de passer le reste du film en compagnie de deux vieux croutons qui font des blagues de cul alors qu'ils n'ont plus l'âge et qui se remémorent leurs vieilles histoires de coucherie pas très drôle, sachant qu'ajouter la misogynie à la sénilité, ça fait un peu beaucoup. Si l'ensemble n'est pas convaincant, c'est donc probablement la faute à ce duo dysfonctionnel dont auraient dû jaillir les étincelles de la comédie, mais qui ne fonctionne pas tant que ça. Il faut savoir que le projet de ce film, qui est une adaptation d'un best-seller, tenait particulièrement à cœur à Robert Redford et qu'il souhaitait initialement partager l'affiche avec Paul Newman, ce qui aurait probablement changé pas mal de choses. Bien que le film soit donc très centré sur eux, quelques rôles secondaires ont le mérite d'exister et de pimenter un peu cette randonnée très monotone. On a entre autres Kristen Schaal, l'actrice de la série très drôle The Last Man on Earth, Nick Offerman ou encore donc Anna Thompson qui viennent apporter un peu d'air au dialogue sans intérêt des deux septagénaires. Globalement, ne vous attendez donc pas à la moindre surprise dans cette gentille comédie sans inspiration. Le film demeure relativement mineur, très convenu, un peu comme la plupart des comédies pour seniors et avec des seniors qui sont depuis quelque temps légion. Et c'est vraiment dommage car à part Youth de Paolo Sorrentino, peu de films sur le sujet sortent du... C'était donc Randonneur amateur de Ken Kwapis, un film que je ne vous conseille pas forcément.
Et oui, et pourtant, sur l'affiche, on voit jubilatoire une bouffée d'air frais. Voilà que Marine vient de démentir tout cela. Randonneur amateur sort le 13 janvier.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Voilà, ceux qui connaissent Bowie ne peuvent pas se tromper, ceux qui connaissent Léos Carax non plus, c'est un extrait, puisqu'on est dans une émission de cinéma quand même, un extrait donc d'une séquence de Mauvais Sang, film de Léos Carax.
Reprise dans Frances A d'ailleurs, quasiment, avec le même morceau.
Et dans un autre film dont j'ai oublié, mais voilà, je l'ai revu encore il y a pas longtemps. Voilà, cette chanson reprise moderne, Love. Et c'est l'occasion de jouer donc un blind test spécial David Bowie, qui a joué dans une trentaine de films. Hein. Il a régulièrement joué au cinéma et au théâtre. Il a fait un début de carrière en 67, mais a eu son vrai premier rôle en 76 avec L'Homme qui venait d'ailleurs, que tu as peut-être vu.
Oui, bien sûr. Et c'est certainement l'un de ses plus beaux rôles, même s'il ne fait pas grand-chose, parce que c'est un rôle qui est très proche de lui. Mmh. Il joue le rôle d'un extraterrestre. Voilà.
Chanteur peut-être, non? Et donc, premier extrait du blind test.
J'aimerais vous demander, pourquoi un homme qui va mourir donnerait-il un faux nom à l'ennemi?
Si vous preniez un soldat japonais, il vous donnerait un faux nom. Mais d'ailleurs, un soldat japonais n'aurait pas accepté d'être pris par vous. Il aurait préféré mourir.
Mais d'ailleurs, je ne suis pas un japonais.
Pourquoi avez-vous refusé de donner à l'officier qui vous a interrogé des renseignements sur vous? Il faut nous raconter votre passé, Zélias.
Mon passé, c'est mon affaire.
La version française.
Eh oui, c'est vrai, t'as raison, Manu, la version française.
Elle est assez catastrophique.
Ouais. Effectivement, mais on n'a pas le choix si on veut jouer à Blind Test. Bon, après, on peut mettre simplement des musiques, hein. Ça aurait pu être aussi le cas. Mais tu as trouvé, donc.
Alors déjà par la version française, hein, puisque on sent qu'il y a du japonais. Donc c'était Furio de Nagisa Oshima, avec aussi d'ailleurs Takeshi Kitano, qui n'était pas connu à l'époque.
Oui, effectivement. Et puis aussi un autre compositeur, enfin musicien-compositeur, Sakamoto, hein, qui donne la réplique à David Bowie. Et là, c'était un rôle vraiment voilà, sur toute la durée du film. Hein, parce qu'après, on le verra, il a fait quelques apparitions. C'est le cas dans ce film.
Ce que je veux accomplir, c'est l'impossible.
Est-ce que vous connaissez l'expression « il faut vouloir saisir plus que l'on ne peut étreindre » ? C'est faux, parce que l'homme en étreint déjà trop pour lui. Les sociétés ne tolèrent qu'un seul changement à la fois. La première fois que j'essayais de changer le monde, on disait que j'étais un visionnaire. La deuxième fois, on m'a très poliment conseillé de me retirer. C'est pourquoi je profite si bien de ma retraite maintenant. Il n'y a rien d'impossible, monsieur Angier, sauf que le prix de ce que vous voulez est trop élevé. Si j'acceptais de vous construire cette machine, vous diriez d'elle qu'elle sert à créer une illusion ?
Eh bien, si tout le monde croyait que tout ce que je fais sur scène est réel, les gens n'applaudiraient pas, ils hurleraient à mort. Non, mais pensez aux femmes que l'on scie en deux.
Monsieur, avez-vous réellement songé au coût d'une telle machine ?
Le prix n'a aucune importance.
Alors, est-ce que ça... Non, ça n'a pas été trouvé, hein, vu ta tête.
Je ne sais pas.
Alors, il donne la réplique, alors là, notamment à Hugh Jackman. Il y a aussi dans le film Christian Bale et Michael Caine.
Ah, le Prestige.
Voilà.
Il avait un petit rôle, effectivement.
Voilà. Il interprète Nikola Tesla, donc, qui fait des expériences sur l'électricité. Et voilà, Hugh Jackman lui demande de construire une machine. Un autre film, alors ça, c'est bon, un film assez étonnant.
N'ayez pas peur.
Qu'est-ce que vous faites ici ?
Je m'appelle Blaylock, John Blaylock.
Je regrette, monsieur Blaylock, mais ce secteur est interdit au public.
J'ai lu le livre que vous avez écrit. Enfin, je n'ai pas lu en entier.
On m'attend à la salle de conférence.
Dans votre livre, vous dites que l'âge est une maladie qui peut être guérie.
Oui.
C'est vraiment ce que vous croyez ?
Puisque je l'ai écrit, mais monsieur...
Blaylock.
Oui, je vous répète que je suis attendu pour une réunion très importante.
Regardez-moi. Regardez ses mains, regardez. Quel âge me donnez-vous ?
On m'attend.
Quel âge me donnez-vous ?
Je ne sais pas...
Vous voyez cette avelure, vous les voyez ?
Les signes de l'âge, oui.
Je ne les avais pas hier. Hier, je n'avais que 30 ans.
Ah oui, vraiment ?
Je suis un homme jeune. Comprenez-vous ça ? Je suis jeune, j'ai 30 ans.
Et pourtant... Alors ça a été trouvé, Menu.
Oui, en plus je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'est les Prédateurs de Tony Scott, lui aussi décédé. Et c'est certainement le meilleur film du réalisateur et je pense aussi un des meilleurs rôles de David Bowie qui donne la réplique ici à Suzanne Sarandon.
Et, Catherine Deneuve.
Et Catherine Deneuve.
Voilà, et qui vieillit hein, dans le film, effectivement, au bout d'un moment, il vieillit minute en minute, hein, quasiment. Voilà. Parce que c'est un vampire, on peut le dire. Un nouvel extrait.
Celui-là, papa.
Salut, Jean. Super, Franck. Tu peux, je sais pas, pisser un peu plus par là. Encore de ce côté.
C'est quoi les perruques ?
Ah, je vais les offrir à des gens pour Noël.
Tu trouves que c'est un cadeau à faire, une vieille perruque ?
Oui, bien sûr.
Oh, du peace painting !
C'est pas du peace painting, c'est de l'art oxydation.
Oui, je déteste nettoyer les pinceaux, moi aussi.
Faut absolument que j'en fasse d'autres. Franck a bu une bière mexicaine et patente. C'est elle qui produit ce verre sublime.
Pourquoi tu pisses pas, toi ?
Je déteste la bière.
Jeu très maniéré, il interprète Andy Warhol.
Oui, dans Basca de Julian Schnabel.
Oui, parfaitement, film de 96. Et maintenant, c'est le dernier extrait de ce Blind Test, un petit rôle.
Je comprends que l'on veuille changer la façon de vivre des gens, mais tu veux changer leur façon de penser, de ressentir.
Tout ce que je dis, c'est que le changement se fera par l'amour et pas par les tueries.
Dans les deux cas, il est dangereux. Il est contre Rome. Il est contre le monde tel qu'il est, car tuer et aimer, c'est la même chose. Peu importe la manière dont tu veux changer les choses, nous ne voulons pas qu'elles changent.
Tu roules là. C'est un petit rôle, donc tu l'as trouvé.
Il interprète Ponce Pilate dans le film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ.
Effectivement, c'est quasiment un sans faute de ta part, Manu, bravo. Et on va terminer avec une... Parce qu'il est intervenu aussi forcément dans des bandes originales de films. Là, il avait composé, je crois, un morceau pour Lost Highway. Je ne sais pas s'il avait composé ou c'était extrait d'un album.
C'était extrait d'un album avec Brian Eno, il me semble. Mmh.
Et en tout cas, ça faisait l'ouverture et la fermeture de Lost Highway, le film de David Lynch. Ambiance totalement étonnante, donc c'était la bande originale, un extrait de la bande originale de Lost Highway, film de David Lynch, en hommage à David Bowie.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Et nous allons maintenant parler du nouveau film de Todd Haynes. Alors s'il n'est pas reparti de Cannes avec la Palme d'Or, Carole de Todd Haynes a tout de même raflé deux prix. Hein. Tout d'abord le prix d'interprétation féminine pour Rooney Mara, ce qui est plutôt engageant, mais aussi reçu la Queer Palm. Alors, il s'agit d'une récompense hors compétition du Festival de Cannes qui distingue le film traitant le mieux des questions homosexuelles, bisexuelles ou transgenres. Et le jury exclusivement féminin a vu dans Carole bien plus qu'un simple film, mais plutôt un moment d'histoire, la première histoire d'amour entre deux femmes traitée avec le respect et l'importance que l'on accorde à toutes les autres romances cinématographiques. Et là, je ferme les guillemets. Alors effectivement, il s'agit bien de cela, hein, même si dans un premier temps, le film aborde son sujet de bien douce manière. Ensuite, nous sommes avec deux femmes amoureuses l'une de l'autre et qui doivent chacune à leur manière lutter contre leur environnement social largement défavorable à l'homosexualité, qui plus est féminine. Précisons que nous sommes dans les années 50. Alors pour faire simple, le film est un immense flashback. Nous suivons d'abord un homme dans la rue qui va ensuite prendre son verre dans un grand restaurant où on voit une brune, Thérèse, une de ses connaissances en discussion avec Carole, la blonde. Alors il se rend à la table des deux femmes et parvient presque naturellement à les séparer. Alors on est assez étonné, il invite Thérèse à le suivre à une fête et Carole s'en va. Et puis quelques instants plus tard, Thérèse dans un taxi derrière une vitre embuée cherche une silhouette blonde dans la rue et l'on comprend qu'il s'est joué quelque chose entre ces deux femmes. Et le flashback va alors nous permettre permettre de comprendre ce qui lie Thérèse et Carole. L'une est une jeune vendeuse dans un grand magasin de Manhattan où Carole se rend pendant les fêtes de Noël. Elle cherche un cadeau pour sa fille. Venue récupérer une poupée, eh bien, elle repart avec un train électrique. Preuve eh bien, que les codes changent et qu'elle l'accepte tout à fait. Et à la faveur eh bien, d'une paire de gants oubliés sur un comptoir, d'une séduction aperçue dès l'entame de cette séquence, eh bien, les deux femmes vont se revoir. La brune qui fréquente vaguement un homme mais qui refuse de s'engager, et puis la blonde qui est une mère de famille en instance de divorce. C'est l'histoire d'une passion entre deux femmes, donc, dans une société américaine puritaine, fatalement hétéronormée et patriarcale. Le film est tiré du roman du même nom, de Patricia Highsmith, qui a été publié alors en 52. S'il est considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre, l'auteur a dû le publier sous un autre nom, hein, car les valeurs qu'il véhiculait allaient à l'encontre des valeurs propres à la société américaine des années 50. La guerre n'était pas loin, et puis l'Amérique était plongée, eh bien, à ce moment-là, dans le McCarthyisme. Il s'agissait de verrouiller les excès, de contrer la différence, qu'elle soit politique ou sexuelle. Alors, ce qu'en tire Todd Haynes, c'est bien autre chose qu'un mélodrame. On aurait pu s'y attendre, hein, vu l'hommage que le réalisateur avait rendu à Douglas Sirk dans Loin du paradis, en nous plongeant également eh bien, dans les années 50. Il s'agit là avant tout d'une histoire d'amour, d'une attirance d'abord et d'une passion forte entre deux femmes dans un contexte qui ne s'y prête pas. L'histoire est racontée du point de vue de Thérèse. C'est aussi le point de vue du livre de Patricia Highsmith qui s'inspirait d'une histoire qu'elle avait vécue avec une femme plus âgée. Et l'une des forces du film réside déjà dans la reconstitution des années 50, et au-delà du décor et des couleurs, c'est aussi l'éclairage des scènes et la pellicule qui nous plonge dans l'époque. Carole, en fait, a été tournée en 16 mm et non en numérique ou en 35 mm comme ça serait d'usage, ou alors même en 70 mm comme Quentin Tarantino, hein, pourquoi pas. Donc ils ont choisi un petit format. Il en résulte évidemment un grain particulier. L'autre force réside dans la mise en scène. Pour prendre de la distance avec l'époque dans laquelle il nous jette pourtant, Todd Haynes utilise régulièrement le prisme de vitres embuées ou salies comme autant de filtres. La douce mélancolie s'installe alors. Et puis il y a la partition musicale qui ressemble alors, à du Philip Glass des mauvais jours. Hein. Enfin, c'est vraiment une partition un peu prenante et vraiment des notes comme en ferait Philip Glass dès le réveil. Donc là, la partition a été écrite par Carter Burwell et ça vient généreusement surligner les tensions, les doutes qui succèdent et puis la passion dans ce Carole qui est d'un autre âge. Alors si les quelques ruses de mise en scène l'éloignent de la facture classique, Carole semble manquer parfois d'une petite audace. Il reste un drame feutré, bienveillant, agréable, quoique un peu lent, servi par deux actrices en revanche remarquables, Kate Blanchett et Rooney Mara. Et c'est vrai qu'à un moment, on ne voit quasiment qu'elle. Et il y a une espèce de pudeur aussi qui se dégage de la relation de ces deux femmes. On se demande finalement à quel moment elles vont s'étreindre. Enfin, il y a quelque chose qui se joue qui est assez intéressant. Mais c'est vraiment comme une douce musique, hein, ce film Carole de Todd Haynes qui sort ce 13 janvier.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Je vais commencer donc par dire que je ne vais pas finalement aborder le cinéma fantastique de façon chronologique. Je vais puiser de manière un peu aléatoire dans l'histoire du cinéma pour évoquer quelques pépites dans un genre très peu prisé finalement en France et où il y a eu quand même peu de réussite. Alors, la nuit, dans une voiture, le visage inquiet d'une femme, l'austère Alida Valli, future mère supérieure dans Suspiria, elle scrute la banquette arrière et regarde affolée à travers son rétroviseur. Le film joue sur un trompe-l'œil, une fausse évidence. Il place d'emblée ce personnage dans la posture de victime. Est-elle poursuivie par un mystérieux assassin ? Que nenni, a contrario, elle transporte un cadavre recouvert d'un imperméable et d'un chapeau. Elle jette le corps à l'eau, jetant des regards un peu partout pour s'assurer que personne ne l'a vu. Alors d'entrée, Franju installe un climat oppressant et ambigu en jouant sur l'altérité du personnage dans la voiture. Les cordes de Maurice Jarre ont des accents hermaniens, tandis que la magnifique photo d'Eugène Chouftan donne le ton.
On m'a enlevé les miroirs, mais il y a les vitres qui me reflètent quand la fenêtre est ouverte. Il y a tout ce qui brille. La lame des couteaux. Le bois verni. Ma tête me fait peur. Mon masque me fait plus peur encore.
« Cette jeune femme, Louise, nous l'apprenons par la suite, est la secrétaire du docteur Genessier, célèbre chirurgien prêt à tout pour redonner un visage à sa fille Christiane, affreusement défigurée lors d'un accident de voiture dont il est responsable. Culpabilisé par cette tragédie, le docteur va sombrer dans une spirale meurtrière en kidnappant des jeunes filles à la beauté intacte. Il entraîne avec lui Louise, qui lui doit d'une certaine manière sa dignité. Le docteur s'est occupé de son visage et l'expérience a réussi. Depuis, Louise s'est abandonnée aux pires exactions accomplies par le docteur. Alors pendant longtemps, Les yeux sans visage fut l'un des très rares exemples réussis de films d'horreur, on peut le dire, à la française. Franjus s'était illustré jusqu'ici dans un cinéma rigoriste et réaliste, inspiration avouée d'une veine documentaire. Le passage d'un genre à un autre n'est pas toujours aisé. Franjus s'empare du fantastique en respectant la plupart des règles élémentaires. Il ne paraît pas chercher à défendre un sous-texte symbolique ou à truffer son récit d'ironie malvenue. Son film est une épure, loin du gothisme de la Hammer ou du baroque à l'italienne. Mais il s'agit tout de même d'une œuvre profondément effrayante. Pourtant, Franjus détestait le cinéma d'épouvante, étrange paradoxe hein, qui interpellait les amateurs. D'autant que par un souci de réalisme évident, le cinéaste a osé franchir un pas, filmer la première séquence gore française. Le docteur découpe le visage d'une patiente, enfin si on veut, une patiente endormie, et le retire délicatement. Un fondu coupe la scène au moment le plus complaisamment affriolant, mais bon, pour l'époque, ce que le spectateur aperçut est déjà assez traumatisant comme ça. La violence de ces quelques secondes valut aux yeux sans visage des histoires avec la censure. Sans surprise, hein, le film fut interdit à l'époque au moins de 18 ans. La crudité des yeux sans visage est contrebalancée par une atmosphère teintée de poésie et aussi des idées de mise en scène stupéfiantes. La première apparition de Christine est introduite de façon symbolique. Franjus commence par filmer une cage avec des oiseaux et dans le plan qui suit, nous découvrons Christine, la jeune fille à l'étrange masque qui pleure de tout son corps, sa solitude insupportable. Alors enfermée dans la luxueuse et labyrinthique demeure de son père, elle désire retrouver sa beauté d'antan coûte que coûte et semble tout de même choquée par les sombres dessins du docteur. À la fin du film, elle libérera la cage lors d'un dénouement qui justifie pleinement son acte. Les yeux sans visage n'est cependant pas un film parfait, hein. Le rythme est parfois languissant, le montage n'arrivant pas toujours à dynamiser la beauté incandescente des cadrages et de la lumière. L'ensemble peut aussi paraître excessivement bavard, défaut récurrent des productions fantastiques des années 50 et 60. Alors ces défauts mineurs ne parviennent jamais cependant à altérer la puissance émotionnelle et visuelle de ce chef-d'œuvre du cinéma d'épouvante français, modèle absolu pour toute une génération de cinéastes, de Jean Rollin pour La Nuit des Traqués, à John Woo notamment Volte-face, et aussi par certains films de Cronenberg qui s'inspirent directement de ce petit classique.
Et puis en fait, ça a été vraiment un précurseur pour le coup, parce que c'est vrai que tu le disais en introduction, il y a très peu de films fantastiques français.
Il y en a beaucoup, mais qui ont acquis ce statut, c'est très rare. Il y a eu beaucoup de films de série B, de série Z, des films importants, des grands films d'auteurs fantastiques, il y en a assez peu finalement. Alors le film est disponible dans une superbe copie Blu-ray chez Gaumont. Le seul problème, c'est qu'il manque quelques secondes par rapport à la version précédente éditée chez René Château. Il y a 20 secondes qui ont disparu.
Ah bon, mais au début, à la fin, au milieu
Au milieu, je pense que c'est lié au master en fait.
D'accord. Bon, pourquoi pas.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu. Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou.
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Alors, la semaine prochaine, eh bien, Marine nous parlera bien des films attendus en 2016. On retrouvera aussi eh bien, des réalisateurs, ceux de Paris Willoughby, une comédie française, pas forcément drôle. Et puis, l'actrice de Anama, film superbe. Voilà, et puis toi, tu iras voir des films aussi.
J'irai voir des films. Je pense que j'irai voir un manga. Je crois que c'est Le Garçon et la Bête.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.